BFM Business, le média référent de l'actualité économique. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, il est 9h30 pile, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour. Avec cette question, la réforme des retraites est-elle vraiment la mère de toutes les batailles? Édouard Philippe le pense, il le dit aujourd'hui dans une longue interview aux Échos. Il promet de ramener le déficit à 2% sans augmenter les impôts, avec une règle d'or budgétaire et une réduction massive du périmètre de l'État. Mais où sont les économies réellement et jusqu'où peut-on aller? Ce sera le premier thème des débats ce matin. Même question avec l'OCDE, 100 milliards d'ajustements d'ici 2030. Voilà ce que préconise l'organisation internationale. Des dépenses sociales à réduire, des retraites à repousser et peut-être de nouveaux prélèvements. Alors la France peut-elle éviter ce remède de cheval? Ce sera le deuxième thème des débats ce matin. Nous parlerons aussi démocratie avec cette étude passionnante du Conseil d'analyse économique. 3 Français sur 4 jugent que notre démocratie fonctionne mal. Faut-il changer les institutions, introduire davantage de proportionnel, mieux rémunérer les élus? On va en discuter avec l'un des co-auteurs de cette étude, Vincent Ponce, qui est sur le plateau. Et puis enfin, l'acier. L'Europe ferme davantage ses frontières et double ses droits de douane. Protection industrielle indispensable au début d'une nouvelle guerre ou accélération d'une nouvelle guerre commerciale. Ce sera le dernier thème des débats ce matin. Allez, il est 9h passé de 31 minutes. C'est les experts. C'est parti. Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour Raphaël.
Président de Montpensier Arbrevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Bienvenue sur le plateau. Gilles Raveau, bonjour.
Bonjour Monsieur Legendre.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Et je le disais, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Ponce. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Qui nous vient des États-Unis. Merci d'avoir fait le voyage. Professeur d'économie à Harvard et membre du Conseil d'analyse économique. Allez, je voulais qu'on commence par l'interview d'actu économique du jour. Édouard Philippe, qui avant son premier grand meeting ce week-end, sort un peu plus sur son programme économique, en tout cas les grandes lignes directrices. Édouard Philippe, qui définit, qui place la réforme des retraites comme la mère de toutes les batailles. Allez Guillaume, je commence avec vous. Est-ce qu'il a raison? C'est dangereux, hein, politiquement, c'est quand même
un peu casse-gueule. On peut dire c'est courageux. C'est courageux parce que ça a été incroyable, le consensus au moment du vote du budget sur le fait qu'on dise, bon, alors comme c'est un sujet trop chaud, on va mettre de côté cette réforme et ça a été même voté de gauche, bien sûr, mais à droite, assez largement. Donc, c'est bien de s'affirmer, puisque face à la situation économique et financière française, il faut faire quelque chose. Et c'est mieux que de faire juste du en même temps et d'aller un peu directement. Ouais. Pourquoi c'est très important? Et alors, est-ce que c'est la mère des batailles? En tout cas, c'est probablement très significatif, puisque le problème français, on en parle à longueur d'année sur ce plateau, c'est qu'il faut qu'il y ait au total de la vie plus de travail en France. C'est-à-dire qu'on sait que on travaille un peu tard et on prend sa retraite trop tôt, et que donc au total, il faut plus de travail, parce que à la fois, bien sûr, ça fait baisser les besoins de versement de retraite, mais aussi ça génère davantage de richesses.
Et, oui.
Et que vous avez là aussi dit à peu près 500 fois, si on travaillait autant qu'en Allemagne, on aurait 200 milliards de plus dans le budget et tout serait réglé.
Plus de problème de déficit.
Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut plus travailler. Les Français, ils aiment bien quand même prendre leur retraite tôt, parce que c'est un patrimoine, c'est une sorte de patrimoine. C'est, on vous dit, ben, on va vous donner une rente pendant 20 ans, vous avez une durée de vie assez longue, et donc on touche d'une certaine façon à un patrimoine symbolique et financier des Français.
Oui.
Et donc, pour qu'ils travaillent davantage, on retombe sur le deuxième sujet, et ça c'est peut-être la deuxième merde des batailles, il faut que le travail paye plus.
Paye davantage, c'est le grand sujet.
Il y a une livre d'Anne de Guigné qui est intéressant, qui s'appelle « Est-ce que les Français... » Je ne sais plus exactement le titre, Raphaël, vous savez plus, est-ce que... Les Français, et pourquoi les Français?
Pourquoi les Français n'aiment pas le travail, pour faire simple, travaillent moins que les autres.
Veulent-ils encore travailler? Je crois que c'est un peu plus positif que ça. Et La réponse, elle est à peu près claire, c'est le salaire net est insuffisant. Donc, tout est lié. S'il y a la retraite est plus tard, il y aura peut-être un peu moins de cotisations de retraite. Et il faut qu'il y ait aussi moins de cotisations par ailleurs pour que le salaire net soit plus fort et que les gens aient envie de travailler. Les gens ne veulent pas non plus travailler pour être peu payés.
Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Édouard Philippe a un problème majeur, c'est que le cœur de son électorat, c'est les retraités. Et donc, effectivement...
Mais les retraités sont pour repousser l'âge de départ en retraite. Eux y étant déjà.
Oui, c'est vrai. Mais
ce sont les actifs là, qui vont être concernés peut-être davantage. Non, mais sur le constat déjà...
Mais je note que dans son interview que j'ai lue et relue attentivement, il ne fait aucune proposition. C'est-à-dire qu'il nous dit... voilà, tout le monde le sait, on a un problème des retraites.
Oui.
Alors en fait, je pense qu'il y a, deux insuffisances dans son raisonnement. C'est que d'abord, la première, c'est qu'en fait, c'est trop tard, les retraites, parce que ce qui est problématique, c'est les retraites d'aujourd'hui, mais c'est pas vrai, c'est pas les retraites de demain, parce que ce qu'on voit justement sur les cohortes qui arrivent à la retraite ces dernières années, c'est qu'il y a eu des réformes très profondes de notre système de retraite.
Ah oui, ça, on n'arrête pas. Oui.
Avec un allongement considérable de la durée de cotisation. Et donc, vous avez de plus en plus de gens qui arrivent humainement au moment où ils prennent leur retraite, sans avoir les trimestres, en passant par des périodes de chômage. Et donc, en fait, les retraites qui sont versées actuellement sont beaucoup moins problématiques. Ce qui est problématique, malheureusement, c'est les retraites des gens qui ont 65, 70, 75, 80, 85, 90 ans. C'est ces retraites-là qui sont beaucoup trop élevées par rapport à la richesse produite du pays. Et évidemment, c'est assez difficile humainement de dire à ces gens-là qu'on va leur baisser leur retraite, et j'attends de voir si c'est ce qui va être proposé. L'autre, à mon avis, impasse très importante, Édouard Philippe nous dit, on a un appauvrissement chronique de notre pays, oui. J'en appelle à un retour de la politique de l'offre.
Oui, vous êtes d'accord avec ça ?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que ce qui manque profondément dans son raisonnement, pour l'instant, dans les différents discours qu'il a fait de lancement répété de sa campagne présidentielle, c'est qu'il ne s'intéresse qu'à la quantité de travail et non pas à la qualité. Or, ce qui fait la richesse d'un pays, on le sait depuis un certain Adam Smith, c'est la productivité.
Oui.
Et donc dire on va travailler plus, on va produire plus de richesse, ça paraît évident, en fait c'est largement faux. C'est-à-dire que si vous avez un emploi très peu productif, vous produisez très peu de richesse et donc vous ne pouvez pas financer le système social. Je donne juste un exemple. Il y a un pays qui s'appelle la Corée du Sud, pays étrange au niveau de vie tout à fait comparable au nôtre, où on fait par exemple des frigos. La production française de réfrigérateurs, elle est nulle. Mais en Corée du Sud, on fait aussi des puces.
Oui.
Et les salariés de Samsung, hein, ça a fait la une de la presse il y a quelques semaines,
oui,
ont reçu, alors c'est assez rigolo, hein, parce que ceux qui font les frigos chez Samsung, ils ont eu une prime annuelle de l'équivalent de 4000 euros. Puis ceux qui font les semi-conducteurs les plus avancés, oui, ils ont une prime annuelle de 300 000 euros, hein, juste cette année. Et ça représente, d'après ce que j'ai lu dans la presse, à peu près 12%.
300 000 euros de prime annuelle.
Oui, en salaire et en action, et c'est 12% du bénéfice de leur secteur d'activité.
Mais il faut dire le bénéfice de Samsung. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est que Samsung, ils vont gagner peut-être 200 milliards cette année. Et donc là, en France, le débat, ce ne serait pas celui-là, ce serait, c'est un profit indu, puisqu'au fond, c'est un peu la même chose que sur le pétrole, c'est que tout d'un coup, il y a une demande de semi-conducteurs, et que, comme pour le transport maritime, et donc en France, on penserait surtout à taxer Samsung.
Oui.
Enfin, ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que j'aimerais qu'un des mots maîtres de la réflexion économique sur l'année qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle soit celui de productivité.
Oui. Un débat ne chasse pas l'autre d'ailleurs. La quantité et la qualité, ce sont les deux jambes
les deux à la fois
du chemin vers la prospérité.
Les deux ne sont pas contradictoires.
Vincent Ponce,
la productivité est vraiment beaucoup plus importante sur la croissance à long terme.
Bien sûr.
On évoquait votre carrière juste avant de rentrer en plateau. Vous m'expliquiez que vous étiez aux États-Unis depuis 2008. Quand ça fait près de 20 ans qu'on habite outre-Atlantique, quel regard on porte sur ce débat passionné, passionnel en France sur les retraites ?
Le débat existe aussi aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on l'oublie parfois, mais en plus des retraites privées, donc de ce système par capitalisation, oui, il y a aussi un système de sécurité sociale.
Comment ça fonctionne ?
Alors, donc les gens cotisent, moi, par mon université par exemple, un système de retraite privée, et en plus de ça, l'État donne des retraites plus faibles, mais qui bénéficient notamment aux individus les plus modestes.
Oui.
Et c'est un système qui, aujourd'hui, est aussi menacé d'un déséquilibre, de telle sorte que s'il n'est pas réformé, s'il n'y a pas davantage de revenus qui sont alloués à ce système, les plus modestes des Américains n'auraient plus droit à cette retraite. À mon sens, sur les retraites, il y a toujours un double enjeu. Hein. Il y a un enjeu du poids de la dette en France, 117%.
On va y venir.
Il y a un enjeu aussi de justice inter- et intragénérationnelle. Mmh. Sur la dette, cette dette est très élevée. Elle a pour conséquence qu'on paye un spread, un taux d'intérêt nettement plus élevé au taux d'intérêt allemand. Une façon de réduire ce taux d'intérêt et de regagner la confiance des investisseurs, c'est de réduire les dépenses sur les retraites. Mais ensuite, évidemment, la question, c'est quelle réforme faut-il faire ?
Oui, ça semble compliqué quand même de baisser les retraites de nos pensionnés. Non, enfin, ça serait quand même assez injuste. On l'a vu dans d'autres pays européens pendant la crise, hein, ceci dit. Hein, mais...
Si vous regardez ce qui se passe au Danemark, par exemple,
oui.
Je suis en train d'étudier ce pays. Et,
le fameux modèle danois.
Ils ont un modèle sur les retraites qui est assez séduisant, puisqu'en fait, ils ont augmenté l'âge de départ régulièrement, toutes les années ou tous les deux ans, de 6 mois. Et donc, il y a un consensus très large, à la fois des électeurs et des différents partis, pour que ce système perdure. C'est un système qui est à l'équilibre. Et je pense qu'il faut qu'on envisage aussi des réformes en France qui ne sont pas des réformes couperets, avec un avant et un après qui sont complètement différents, mais plutôt des réformes glissantes, progressives, qui entérinent un changement des règles. Et, aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes de justice. Alors, je disais intergénérationnel, pourquoi ? Parce que si vous avez un système qui n'est pas à l'équilibre, ça veut dire que les générations actuelles savent qu'elles ne pourront pas compter sur une retraite demain. Et il y a une question intragénérationnelle aussi, puisqu'on a un système qui aujourd'hui favorise les carrières ascendantes et défavorise les carrières qui sont plus pointillées, qui sont plus courtes, notamment les carrières des femmes, les carrières d'individus moins bien rémunérés. Il faut évidemment tenir compte de ces différences dans les réformes qu'on va engager.
Vous savez, Raphaël, que avec la librairie de l'Écho, nous avons donné le prix BFM Business Montpensier-Arbevel à un livre formidable qui s'appelle Économie des âges de la vie d'Hippolyte Dalbis,
et président du Cercle des économistes,
et qui présente une réflexion très intéressante. Il dit il faut arrêter de réfléchir uniquement en binaire. Ce qu'on aime bien, c'est dire juste actif versus. Il dit il faut avoir une réflexion ternaire, c'est-à-dire qu'il faut regarder les trois âges de la vie. Le premier âge, celui de l'enfance, de l'adolescence, au moment où on est à l'école. Ensuite, le moment du travail, puis le moment des gens qui partent à la retraite, et ensuite peut-être la dépendance. Et ce qu'il explique, c'est que le fonctionnement de l'économie est beaucoup plus subtil, puisque d'abord, il dit globalement, on donne encore davantage d'argent au premier âge, c'est-à-dire à l'âge de l'éducation, de la formation, de l'aide à l'enfance, qu'au troisième âge, entre guillemets, que... Deuxièmement, les flux financiers...
On donne davantage de moyens.
Bah,
si on compare les pensions avec le budget de l'éducation nationale...
Vous irez discuter avec Hippolyte Dalbis, il le dit...
On a un rapport de x10 quand même. Hein.
Pardon, c'est clair.
C'est presque
si
un rapport de x10.
Si vous regardez l'ensemble des dépenses d'éducation nationale...
Oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des flux financiers.
Si vous regardez, je voudrais finir la démonstration, parce que c'est celle d'Hippolyte Dalbis et elle me semble très intéressante.
Et après la réponse,
il explique l'ensemble... De ce qui est donné au premier âge et en tout cas comparable au troisième âge.
Oui, politique de la famille, etc. Oui.
Politique de la famille, l'ensemble de ce qui est fait, l'ensemble des frais des écoles, l'ensemble des frais d'aide...
Ce sera un débat intéressant, on l'invitera, Hippolyte
Dalbis. Donc, ternaire. Deuxièmement, en ce qui concerne l'analyse des fonctionnements de transfert intra-âge, à la fois les anciens bénéficient certes de la redistribution sociale pour une partie importante, mais deuxièmement, ils font appel à leurs économies, et troisièmement, eux-mêmes sont grands transfèrent beaucoup d'argent aux générations suivantes. C'est-à-dire que, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais que l'ensemble, si vous analysez...
Oui, l'ensemble, en bref, l'idée reçue que retraités sont des égoïstes qui passeraient leur temps en voyage et qui ne s'occuperaient pas des plus jeunes.
Il y en a sûrement, mais
on a parfois eu tendance à caricaturer un peu les retraités.
Et le livre est à la fois très lisible, très bien écrit et appuyé sur des batteries de chiffres que notre camarade professeur pourra analyser en détail et contester directement auprès d'Hippolyte Dalbis, pas avec moi. Mais que donc cette vision caricaturale actif, retraité est trop
serrée. Et plus nuancée, oui. Gilles Raveau.
Non, mais c'est pas du tout caricatural. Première chose, il faut regarder l'ensemble des transferts, évidemment, publics et privés. Bon, typiquement aujourd'hui, quand vous payez, je simplifie, mais c'est ça, quand vous payez un loyer, vous êtes quelqu'un qui travaillait, et lorsque ce loyer encaissé par une personne, la plupart du temps, c'est une personne retraitée. Donc, les transferts sont massifs des gens qui travaillent vers la retraite. Tout le monde le sait, le taux d'épargne des retraités est dingue, le patrimoine des retraités est dingue. C'est la faute de personne. C'est une génération exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité.
Je rappelle que la pension moyenne est de 1500 euros en France aussi et que les retraités est une catégorie peut-être
très générale. Tout à fait d'accord. Ils sont tellement nombreux. Il faut quand même mesurer qu'en France, un adulte sur trois est retraité. Donc évidemment, ça n'est pas une classe sociale. Ça n'a aucun sens. On parle de 17 millions de personnes. Oui. Mais après, on fait des moyennes. Bon, c'est notre métier. C'est un concept assez subtil à comprendre.
Et l'ensemble des non-actifs, c'est encore plus frappant puisque il n'y a que 40% à peu près des Français non-Gilles qui travaillent.
On est 30 millions à travailler.
Oui. Voilà. Sur 67, 68, 67 millions, 70, donc on est à 40%. Oui.
Oui. Et là-dedans, je compte les fonctionnaires qui pourtant ne font rien.
C'est sympa pour les fonctionnaires.
Non, c'est une petite boutade. Mais l'indicateur, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, c'est la faute de personne ou de tout le monde, c'est ce qui est la même chose finalement. Le niveau de vie moyen des retraités, le niveau de vie, c'est-à-dire effectivement lorsqu'on regarde ce qui vous reste une fois que vous avez enlevé les dépenses contraintes, est supérieur aux gens qui travaillent, notamment parce que qu'est-ce qui se passe actuellement ? Évidemment, il y a l'augmentation très forte du coût du logement des dernières décennies, qui encore une fois, sur le plan intergénérationnel, on voit très bien qui paye et qui en bénéficie, c'est évident. Et par ailleurs, il y a l'augmentation très très forte du coût des études. Il y a eu une libéralisation très forte, comme aux États-Unis, des études supérieures. Vous avez aujourd'hui, hein, pour ne pas citer d'exemple, des années de master à Sciences Po Paris qui vous coûtent 10 000 euros. Donc ça repose sur les gens qui travaillent. Donc, et quand vous êtes à la retraite en France, vos systèmes de dépenses de santé sont largement socialisés, vous n'avez plus d'enfants à charge, travailler ça coûte cher en termes de déplacement, d'habits, on mange dehors, il y a plein de choses, etc. Donc le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui des gens qui travaillent. C'est aberrant économiquement et surtout démocratiquement. Voilà, c'est un énorme problème. Mais encore une fois, c'est la faute de personne. On a eu cette génération qui, et donc c'est là que je reviens à mon truc de productivité. Pourquoi est-ce que les retraites sont aussi élevées? Parce que c'est des gens qui ont eu des carrières à un moment où l'économie française faisait 5% de croissance par an, parce qu'il y avait des gains de productivité de 5% de croissance.
Et puis une pyramide des âges qui n'était pas tout à fait celle que l'on connaît dorénavant.
Mais si on avait eu 5% de croissance, évidemment, depuis les années 90, les retraites représenteraient peut-être la moitié ou même moins de ce qu'elles représentent aujourd'hui par rapport au salaire.
Ben
c'est
oui.
ça l'explication. C'est
le moteur de la prospérité. Et si on avait la productivité américaine depuis, je crois, les 20 dernières années,
le salaire médian global de la France,
3300 euros et pas 2200.
On peut prolonger et en gardant les arguments de Gilles, c'est-à-dire que l'insuffisance de productivité, l'insuffisance de l'innovation technologique. L'Europe a perdu la révolution technologique, c'est-à-dire qu'on est en train d'être un pays de troisième zone. Enfin, et la France à l'intérieur encore pire. Donc le sujet, c'est l'insuffisance richesse. On est passé au 25e PIB par habitant. Alors là, dans les 25, il y a plein de petits pays. Mais enfin, si on prend les grands,
on est
au 15e. Donc il n'y a pas assez de richesse. Donc oui, il n'y a pas assez de salaire. S'il
n'y
a pas assez de salaire, c'est qu'il n'y a pas assez d'une économie qui est à l'arrêt.
Vincent Ponce.
Gilles parlait tout à l'heure des électeurs d'Edouard Philippe, des électeurs des différents candidats. Je pense que c'est une partie importante du problème, en plus des circonstances historiques qui ont permis à cette génération aujourd'hui qui est à la retraite d'avoir une situation qui est favorable. La situation politique, elle est simple. Vous avez aujourd'hui des retraités qui correspondent à un poids croissant des électeurs, une fraction croissante des électeurs, et qui en plus votent beaucoup plus que les générations les plus jeunes. Donc si vous êtes un candidat, évidemment, il y a un moment où il faut vous adresser à vos électeurs potentiels et à vos électeurs actifs, et il se trouve qu'ils sont bien plus nombreux.
Et ben, dans le livre d'Hippolyte Dalbis, il dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, les jeunes non plus ne votent pas tous. En fait, les jeunes ne votent pas énormément. Donc en proportion
moins que
des classes d'âge,
que les
et que deuxièmement...
Mais c'était exactement mon point.
C'est ça, oui.
C'est que les retraités pèsent beaucoup plus que les jeunes, parce que les jeunes votent moins.
Et les retraités votent dans la tranche 60-70 et après 75 votent beaucoup moins. Donc c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que sur le poids.
La majorité en 2025 a été une année de bascule pour deux raisons. Un, on a eu plus de morts que de naissances. Et deux, les plus de 50 ans sont depuis l'année dernière majoritaires dans le corps électoral. Évidemment, le pays étant vieillissant, ça ne va pas changer.
Mais donc le sujet, c'est qu'on est quand même en train toujours de parler d'un trop petit gâteau qu'il faut répartir en disant ben « alors il n'y a rien à manger, je vais te reprendre un peu parce que toi tu manges un tout petit peu ». Donc moi j'aime beaucoup le propos de Gilles, Le sujet, c'est la productivité, c'est la force du site France. Il faut innover, il faut produire, et ça se passera pas par un grand plan. Hein. Ça se passera par un site France qui soit favorable à la création de richesses.
Plus prospère, effectivement. Les recettes pour être plus prospère. L'OCDE en a publié hier une étude spécifique sur la France où elle parle à nouveau de dette, comme la Commission européenne, comme la Cour des comptes la semaine derrière. L'OCDE qui évoque 100 milliards d'euros d'ajustement d'ici 2030 avec ce que les Échos appelaient ce matin un remède de cheval, hein, c'est retraite repoussée, dépenses réduites et impôts supplémentaires, bref, une petite cure d'austérité. Mais parce que pourquoi ? Y a un risque d'emballement de la dette quand même. Vincent Ponce, est-ce que vous pensez que la France arrive, est-ce qu'il est minimum 5 quoi ? Est-ce que ce scénario d'emballement qu'on évoque depuis 20 ans en France, depuis le rapport Pébro de 2003 de mémoire, qui s'inquiétait des 1000 milliards, bon, on est en route vers les 4000 milliards aujourd'hui. Est-ce qu'on est en zone de danger là ?
On est en zone de danger parce qu'on a une dette qui fait 117% du PIB. Quand vous avez une dette qui fait plus de 100% du PIB, il y a une conséquence mathématique qui est qu'à chaque fois que votre taux d'intérêt augmente de 1 point, vous allez dédier 1% de toute la richesse produite dans le pays une année, avant même de la répartir entre les salariés et les actionnaires, simplement au service de la dette.
Oui.
Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la différence entre le taux d'intérêt payé par la France sur sa dette souveraine et le taux d'intérêt payé par l'Allemagne a doublé au cours des 5 dernières années.
Oui.
Ce qui montre que les ménages, les fonds qui prêtent à l'État français pour qu'il puisse renouveler sa dette, lui font de moins en moins confiance pour rembourser sa dette et donc demande à s'assurer avec un taux d'intérêt qui est de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle il y a un enjeu aujourd'hui important de rétablir l'équilibre, de réduire le déficit qui est 5% cette année.
Edouard Philippe propose 2%. On ne sait pas encore complètement par quel voie et moyen, mais en quelques années.
Mais au-delà de cet enjeu de réduire le déficit, il y a aussi un enjeu de retrouver la croissance, puisque la croissance va aussi mécaniquement faire entrer des revenus et réduire le poids de la dette par rapport au PIB.
La dette française qui pourrait atteindre 127% du PIB dès 2030, alerte l'OCDE, et 200% d'ici 2050, Gilles Raveau. C'est un peu comme la température extérieure, quoi. Hein. C'est la grenouille dans la bouilloire, là. C'est étonnant.
Il y a la dette objective et la dette ressentie. Et la dette ressentie. Et moi, comme fonctionnaire, la dette, je la ressens très bien. La dette est déjà là, effectivement. Encore une fois, mais il est largement trop tard parce qu'on a une inertie des masses, comme Vincent Ponce l'a rappelé, qui sont là. Donc, juste un ordre de grandeur. On est à peu près, enfin les gens raisonnables, on est à peu près d'accord pour dire qu'effectivement, en gros, il faudrait diminuer le déficit annuel en gros de 100 milliards.
Voilà. Je rappelle qu'on est à 130 milliards cette année.
Il faut bien, je reviens aux bases, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que le PIB de la France ? Le PIB, c'est le nouveau flux de richesse qui est produit chaque année.
Oui.
Chaque année, au 1er janvier, à minuit et une seconde, le PIB, c'est zéro. D'accord ? Le compteur est remis à zéro, mais pas la dette. D'accord ? Pas la dette. C'est-à-dire que le PIB, c'est un flux, il faut produire chaque année. Bon. Si vous voulez diminuer donc chaque année, ou en tout cas ou une année, le choc là que propose Édouard Philippe, passer de 5% du PIB à 2%, le PIB c'est à peu près 3000 milliards, donc 3% c'est 90 milliards, j'arrondis à 100 milliards, parce que, on est un peu nul en maths en France, et moi le premier, donc 100 milliards divisé par 50 millions d'adultes, ça fait 2000 euros. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, il faut diminuer le niveau de vie moyen de l'ensemble des adultes, où il y a quand même 15% de pauvres, etc., tout le monde n'est pas riche en France, de 2000 euros. C'est impossible. Enfin, je veux dire, humainement, économiquement, politiquement, ça n'est pas possible. Donc, je ne comprends pas, voilà. Je ne comprends pas ce qu'on va faire.
Alors, moi, je suis pour le plan Raveau. Monter la productivité en France, c'est clé. Alors, quelles sont les solutions ? Parce que là, on est de nouveau en train de... On est tout à fait d'accord sur le constat de la dette. Et effectivement, c'est effrayant. Mais on ne change pas le logiciel. Autre ouvrage à qui on a remis le prix BFM Business Montpensier-Beuvel il y a 2 ans, celui de Christophe et Auge Duval sur l'inflation normative quand la France crève de trop de règles.
Oui.
Si vous regardez là, on reste sur le sujet de la dette. Si vous prenez la courbe, Raphaël, écoutez-moi, si vous prenez la courbe de la dette et la courbe de l'ensemble des réglementations en France, elles se collent depuis 80, elles sont collées. Et donc, c'est un pays qui est entraver...
Corrélation n'est pas causalité, non. Mais il y a peut-être quelque chose entre les deux, effectivement.
J'ai pas dit que c'était causalité.
Ça marche aussi avec les températures.
Vous marquez avec la corrélation, elle est quand même remarquable, et... On le sent bien, on voit bien quand dans d'autres pays, je ne vais pas en citer,
mais il y a un peu moins de règles, ça fonctionne plus vite. Un nouveau rapport sur le sujet, effectivement.
Et donc, c'est vraiment un des sujets. Si on veut retrouver la productivité, RAVO, absolument indispensable. La productivité, on peut générer plus d'argent pour le même nombre de personnes. Or, ces règles, vous voyez bien qu'elles entravent absolument tout. Les délais de construction des usines, les délais de construction des autoroutes, les délais de construction de ci, de ça. Le pays est bloqué. Le pays étant bloqué, on n'y arrivera pas. Donc, je ne sais pas, la retraite, c'est la mère de toutes les batailles pour l'équilibre. Et pour l'équilibre des comptes et surtout pour la quantité de travail, oui. Mais ça doit s'accompagner de la productivité, et la productivité, ça demande un vrai effort de règles. Sur ces histoires de règles, ça fait 50 ans que tous les gouvernements le disent, aucun ne le fait, on a le Parlement le plus bavard, combien, je ne sais pas, 400 000...
Normes en France, règles et normes, c'est le stock, ça, effectivement.
Non, le stock, il est beaucoup plus important, il est aux alentours de 20 millions tellement, si vous regardez toutes les règles qui existent, et on en produit, et les textes de loi sont de plus en plus bavards, les décrets d'application de plus en plus bavards.
Sans être véritablement appliqués.
Et c'est là où il faut ce reset, on est entravé.
100 milliards de redressement, est-ce qu'on peut éviter les hausses d'impôts massives?
Gilles, Vincent, vous avez des règles toutes les deux minutes, vous ne pouvez rien faire, il dit rien. Gilles, il dit, je ne peux pas faire un voyage avec des étudiants, je ne peux pas changer mon radiateur.
Et moi, j'aimerais poser une question à Vincent Ponce, Guillaume Dard, pardon. Est-ce qu'on peut redresser la barre à 100 milliards d'euros sans passer par des hausses d'impôts? Les économies, on voit à peu près, on en a parlé, mais est-ce qu'on va pouvoir éviter des hausses d'impôts dans les années à venir?
Moi, je pense qu'il va falloir malheureusement envisager aussi des hausses d'impôts. Et il me semble qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, évidemment, ça permet de résoudre une partie du problème. Et ensuite, ça permet de faire passer la pilule. Alors, on parle de quels impôts ici? On est quand même dans un monde en France, encore plus aux États-Unis, où vous avez une augmentation forte des inégalités de patrimoine. Je regardais encore les chiffres ce matin. Les 0,001% de nos concitoyens les plus fortunés, donc on parle quand même de très très peu de gens,
oui.
Détenaient 1% du patrimoine total français il y a 20 ans, et aujourd'hui 5%. Donc vous avez cette explosion des inégalités de patrimoine, c'est tout à fait naturel de vouloir
taxer... Le patrimoine étant en l'occurrence, dans ces cas-là, l'entreprise, et l'entreprise cotée, bien souvent, donc c'est une valeur de marché
absolument
financier.
Et c'est un patrimoine qui est aussi ensuite légué aux générations futures.
Oui.
Donc pour des raisons de justice, à nouveau, et d'égalité des chances, taxer ces patrimoines les plus importants permettrait à la fois de faire rentrer des rentrées d'argent supplémentaires et sans trop affecter les incitations, si on fait notamment une taxe sur les héritages, permettrait de rétablir l'égalité des chances entre tous les citoyens.
Donc ça serait le capital, hein, la source. Parce qu'on est le problème en France, c'est qu'on est au taquet sur absolument l'ensemble des assiettes, hormis la consommation. Vous dites donc héritage.
Ça serait une façon. Puisqu'il va falloir faire un effort commun, ça serait une façon de signaler aux Français que. Les plus fortunés, les plus chanceux aussi, parce que parfois on a accumulé du patrimoine grâce à la chance, vont être mis davantage à contribution que le reste de la population.
Allez, Gilles Raveau et Guillaume Dard.
Il ne va pas nous dire si c'est le cas, mais moi je souhaiterais vraiment, je dis ça très sérieusement, que quelqu'un comme Vincent Ponce conseille Édouard Philippe. Et notamment, il y a trois pistes qu'il faut...
Pas de hausse d'impôts, dit Édouard Philippe.
Oui, je sais. Tout à fait. Il y a trois pistes qui sont relativement... Je ne développe pas, mais il y a des propositions très précises, notamment de Philippe Acumon, de vous-même, de Xavé Jaravel, qui sont vraiment quand même des gens très sérieux, qui travaillent. C'est de raboter le pacte Dutreil, hein, qui conduit à des excès d'exonération fiscale. Deuxième piste, c'est ce qu'on appelle la taxation des plus-values latentes aussi là, sur l'assurance-vie au moment des transmissions. Et effectivement, je recommande à tout le monde, il y a une excellente note du Conseil d'analyse économique sur l'héritage qui propose un taux de taxation croissant des héritages, des différents héritages qu'on reçoit au cours de la vie. Je sais que c'est l'impôt le plus détesté
Même les plus modestes le refusent.
Mais si on ne fait pas ça, on se prive d'une part importante des solutions nécessaires à la maîtrise de l'endettement public.
Allez Guillaume, très rapidement avant la coupe.
Je rappelle le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin. Or, on sent bien dans tout ça même si le sujet des inégalités est un vrai sujet, une espèce de jalousie très française et absolument permanente. Deuxièmement, par rapport à l'impôt sur la mort, il y a deux attitudes humaines. Il y a un certain nombre de gens qui disent « oui, c'est moi qui ai gagné, mes enfants, je les ai faits, mais je vais leur donner un petit appartement, mais ils n'ont aucun besoin de milliards, et il y a des milliardaires américains qui donnent. » Et il y a d'autres personnes, et qui sont plutôt, à mon avis, majoritaires, et c'est assez français, qui disent « j'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit quelque chose, ça a été difficile, j'aimerais que mes enfants partent d'un point plus haut. » Donc, cette attitude psychique, vous ne l'enlèverez pas. Troisièmement, quand on parle des inégalités, si vous parlez de Elon Musk, qui est l'homme absurdement riche, mais il est absurdement riche parce qu'il est absolument génial. C'est-à-dire que les 1000 milliards, lui, il est arrivé à 18 ans avec 10 dollars au Canada. Il a inventé tout ce qu'on peut inventer. Il vaut 1000 milliards. Est-ce que ces 1000 milliards qu'il a dans sa poche, le gars, il vit la nuit sous son bureau pour construire ses fusées. Donc, c'est assez complexe de dire... et si vous enlevez Elon Musk, Elon Musk arrête de travailler, le 1000 milliards, les 2000 milliards, ils n'existent pas, puisque c'est sur sa valeur personnelle.
Et oui, le débat s'annonce passionnant. C'est évidemment un sujet qui sera dans la campagne présidentielle qui s'ouvre. On se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous. On va parler... réforme de notre système démocratique, avec cette étude du CAE dont Vincent Ponce va nous parler. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts avec Guillaume Dard, Vincent Ponce et Gilles Raveau. Vincent, je me tourne vers vous. On va parler ensemble de votre étude absolument passionnante, coécrite avec, rappelez-moi...
Pierre Boyer.
Sur la démocratie, décidément, je suis obsédé par la démographie. Sur la démocratie, faut-il changer les règles du jeu? Vous partez d'un constat très net, qui est que 3 Français sur 4 jugent que la démocratie fonctionne mal. Présentez-nous rapidement les grandes lignes de votre étude.
L'étude commence par un certain nombre de constats. Donc la démocratie, en effet, ne fonctionne pas très bien. Les Français sont de moins en moins satisfaits de la façon dont elle fonctionne. Ils montrent une défiance croissante envers les élus, envers les institutions. La participation électorale baisse également, même s'il y a parfois des sursauts, comme en 2024 pour législative. Mais sur le temps long, depuis les années 1980, il y a une baisse très forte. La participation est aussi inégale, on en parlait tout à l'heure, entre les citoyens plus âgés et puis les plus jeunes. Il y a une montée des votes populistes, des votes extrêmes. Donc il y a quand même tout un ensemble de signaux ici qui sont inquiétants et qui entament la capacité de nos gouvernements à mener des réformes qui soient légitimes et qui génèrent un consensus. Et donc on a souhaité s'attaquer à ce problème en identifiant un certain nombre de réformes institutionnelles qui permettraient de renforcer la participation des électeurs, d'attirer toujours les meilleurs de nos concitoyens sur la carrière et la fonction élective, peut-être d'avoir une représentativité plus forte du Parlement et d'utiliser aussi davantage la démocratie participative, parce que beaucoup de Français disent qu'ils aimeraient être davantage associés de façon plus directe aux décisions qui sont prises par les gouvernements.
Est-ce que ça vient des institutions, ce blocage, ou est-ce que ça vient d'une évolution de la société? Alors, vous le dites, les propositions, c'est inscription automatique sur les listes électorales, un peu de proportionnel pour effectivement que l'Assemblée soit plus représentative et puis des élus mieux rémunérés. Mais est-ce que ce niveau d'abstention vient des institutions ou des gens qui nous dirigent?
Alors,
parce qu'on entend beaucoup finalement les uns ou les autres, c'est un peu la même sauce et on n'avance pas.
L'abstention, elle a progressé pas seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, ce qui suggère qu'il y a des causes qui sont pas spécifiquement françaises. Une des interprétations, c'est qu'il y a un changement culturel important. On est passé d'une culture déférente où nos parents, nos grands-parents allaient voter par sens du devoir civique sans trop se poser la question, à une culture avec des citoyens qui sont un peu plus critiques, qui vont aller voter s'ils perçoivent qu'il y a un enjeu important, qui sinon peut-être vont signer pétition, vont aller manifester. Donc il y a certainement des changements culturels importants, mais il y a aussi des réformes qu'on peut faire pour améliorer les choses. Vous avez parlé de l'inscription automatique sur la liste électorale. Il faut savoir que la façon dont on vote et dont on s'inscrit sur les listes en France, c'est une spécialité, une exception. Si vous regardez dans tous les autres pays, c'est l'État qui s'occupe d'inscrire les gens sur les listes. Mmh. L'État, évidemment, dispose de la liste de l'ensemble des citoyens éligibles. Il connaît leur adresse, par exemple, avec les données d'impôts. Donc, il n'y a absolument aucune raison que, comme en France, on demande aux gens non seulement de se déplacer au bureau de vote, mais aussi de se déplacer pour aller s'inscrire sur les listes. Donc ça, c'est des réformes qui sont faciles à faire. Il y a déjà eu des rapports de l'Assemblée nationale, du Sénat.
Oui. Sur. On pourrait peut-être un peu moderniser, effectivement.
C'est formidable que Vincent fasse ce travail, mais comme il l'a dit, les démocraties souffrent partout dans le monde. La démocratie, ça n'est jamais un régime complètement naturel et complètement harmonieux pendant très longtemps.
Ni un régime acquis pour toujours.
Voilà, si vous prenez d'abord la première grande démocratie grecque, connue, Athènes, comment ça fonctionnait Athènes, comment est-ce qu'ils faisaient les citoyens pour être à l'agora tous les jours? C'est qu'il y avait 50% d'esclaves à côté qui travaillaient. Si vous prenez la deuxième démocratie, que ça n'a pas duré vraiment très longtemps à Rome, même système, les esclaves. Prenez la grande démocratie qui a été créée, la République américaine, même système. Au début, c'était aussi des esclaves. Bon, alors après, heureusement, il n'y avait plus d'esclaves. Les choses se sont arrangées. Le bonheur de la démocratie, il y a le livre de Tocqueville, fantastique, parce que je crois qu'il faut aller quand même très loin pour comprendre. Parce que démocratie, si vous prenez le 19e siècle français, on a changé cinq fois de régime. Mmh. Et il y a le moment de 1848, bien décrit dans Tocqueville, où Tocqueville va voter dans le chef-lieu, à côté de l'endroit où il habite, avec tous les paysans de son village qui le suivent et qui sont extrêmement heureux d'aller voter. Et ce que Vincent dit bien, c'est que finalement, le bonheur d'aller voter dans une société individualiste, on dit bah non. Alors, et je suis d'accord qu'il faut simplifier par ça.
C'est un droit qui, dorénavant, est digéré.
Les démocraties n'ont jamais été aussi clivées. Si vous prenez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, et pourquoi? Parce que, un, ce sont des structures organisationnelles très complexes où les gens se disent qu'ils n'ont quand même pas un rapport commun. La démocratie, elle marche bien en Suisse, qui est un petit pays, parce que c'est assez simple, c'est assez visible, on peut aller voter tout le temps, mais au fond, il y a 10 millions de Suisses, donc c'est faisable. Dans nos structures, à 70 millions de personnes en France, dans un monde extrêmement agité, où les gens sentent, c'est pas qu'ils disent que les politiques veulent rien faire, c'est qu'ils voient bien que les politiques, ils sont ballottés de crise mondiale en crise mondiale, et que leur capacité d'agir, elle est relativement faible.
C'est assez limité.
Alors, il reste le moment de l'élection présidentielle, où là, on a le sentiment que peut-être ça peut un peu bouger, mais et des municipales, où aussi, même, ils votent pas énormément, mais ils ont le sentiment que le maire. Pour le reste, ils ont le sentiment d'être ballottés. On a une crise démocratique. J'espère que les solutions de Vincent le régleront. Il n'est pas exclu qu'on sorte, on ait un basculement. Est-ce qu'on va tomber dans quelque chose de très, très, très autocratique? Ce qui se passe aux États-Unis.
Il y a un désir dans l'opinion publique qui monte,
C'est un risque.
Pouvoir fort.
Est-ce qu'on va passer dans un système, si on est comme dans les années 30, c'est là où on avait des démocraties partout en Europe. Dans les années 20, dans les années 30, on a eu le fascisme italien, le fascisme allemand, le communisme soviétique et un débat en France qui a débouché sur le maréchal Pétain. Donc on est dans un moment de basculement. C'est pas gagné la démocratie.
C'est pas gagné la démocratie, Gilles Raveau nous dit Guillaume Dard. Est-ce qu'en changeant les institutions, en mettant en place l'inscription automatique sur les listes électorales ou en regroupant les élections locales, municipales, départementales et régionales, comme le propose Vincent Pons, on pourrait améliorer un peu la participation démocratique qui, décidément, la participation démocratique qui souffre de plus en plus structurellement.
Vous avez envie de faire des enfants, Raphaël? Qu'est-ce qui se passe?
Je vais donner, merci.
Quelle est cette obsession démographique? Oui, il y a quatre propositions dans la note qui est effectivement très intéressante. Cette idée d'inscription automatique sur les listes électorales, je pense que c'est important, et on n'est pas bon pour ça en France, mais dans aucun autre pays, c'est pareil, de mettre des propositions pragmatiques au cœur du débat politique, parce que ça fait pas rêver. Mais en fait, souvent, les petites choses, on est bien placé dans notre économie, pour savoir que des petits changements organisationnels peuvent avoir des grandes conséquences. L'intérêt de la note, c'est qu'il y a les deux côtés en fait du marché politique, il y a l'offre et la demande, pour utiliser les termes de la science politique et de la science économique. J'aime bien l'idée vraiment de regrouper les élections locales, c'est tout bête. bête, mais ça aura aussi là des grandes conséquences, je pense, sur la participation. Le fait d'améliorer la rémunération des élus, de leur donner les moyens de travailler, je pense que notamment, bon là, forcément, on est d'accord avec Vincent, sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait enfin vraiment, surtout avec les outils modernes aujourd'hui, oui. Informatique, électronique et cette chère intelligence artificielle, qu'on ait enfin une vraie force de frappe à l'Assemblée nationale et au Sénat qui permettent d'évaluer en temps réel les propositions, notamment budgétaires, qui soient faites. Mmh. J'irais même pour que
ça fait longtemps qu'on en parle. Hein.
Oui, ça fait
beaucoup
très
de mal à mettre en place.
Mais hein. nos élus, je suis bien placé pour en avoir rencontré plusieurs. C'est fascinant. Hein. Les élus de différents bords politiques ne sont pas là pour vous écouter, ne sont pas là pour apprendre, ne sont pas là pour rendre des comptes. Ça, c'est très clair dans la culture française. Alors qu'il faudrait que justement toutes ces données soient en source ouverte, que n'importe quel citoyen puisse faire ses petits calculs. Enfin, il y a plein de sites qui multiplient la transparence. Ça vient jamais. Des partis politiques, c'est très impressionnant. La dose proportionnelle ouverte, ça aussi, je suis tout à fait favorable à ça. Alors, je ne sais pas si Vincent connaît ça, mais il y avait un papier génial en 2006 de Torben Iversen et de David Soskis, un politiste et un économiste, qui avait montré sur longue période, hein, depuis la fin des années 1940, donc jusqu'au début des années 2000, ouais. qu'il y avait une corrélation très forte entre le système politique et le résultat des élections. Et il montrait, c'était dingue, que dans les pays où il y a de la proportionnelle, la gauche l'emportait les trois quarts des fois, et dans les systèmes majoritaires, la droite l'emportait pour les trois quarts des fois. Et ils expliquaient ça avec notamment le comportement du parti médian dans les systèmes proportionnels, avec ce qu'ils appellent un modèle à trois parties. Je vous laisserai lire le papier, c'est un truc absolument génial. Ce que je rajouterais, c'est la démocratie au travail. Ça, je pense que s'il y a une mesure qui ne coûte rien, oui. et qui pourrait avoir des grands effets, c'est là-dessus. Et je citerai deux auteurs que j'aime beaucoup. Thomas Coutreau, sociologue du travail, qui a fait un long papier qui s'appelle « Le bras long du travail », où il montre une corrélation, justement, aux élections municipales entre la faible autonomie, la faible participation des gens dans leur travail, le fait qu'ils ne soient pas consultés quand il y a des restructurations, mmh. et l'abstention. Parce qu'effectivement, je trouve ce qui manquait un peu dans votre note, c'est de plus insister sur le fait que il y a une très forte différenciation sur les catégories socio-professionnelles dans le rapport au vote. Oui. Et le premier vote des ouvriers, c'est l'abstention, évidemment. Et le deuxième, c'est le Rassemblement national. Et donc Thomas Coutreau nous montre, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière hein, sur les conditions de travail, que moins vous êtes consulté dans votre travail, moins on vous demande votre avis, moins votre opinion est respectée, plus vous vous disqualifiez comme expert, justement, sur ce que vous faites toute la journée, et donc vous vous disqualifiez aussi dans les autres sphères de la vie sociale.
Ouais, c'est intéressant. Yann Hagan avait fait une étude.
C'est un résultat classique. Une autre référence à donner, c'est mon cher professeur Olivier Favreau, qui travaille depuis des années avec le Collège des Bernardins. Vous voyez, frère d'art, nous retrouvons le chemin de la religion, et qui a co-écrit un traité de co-détermination, et qui montre que, voilà, et là aussi on a pas mal de résultats qui montrent que lorsque les salariés sont plus associés à la oui. gestion des entreprises, eh bien, en fait, on a des meilleurs résultats à long terme sur la productivité des entreprises et sur le bien-être des salariés. Donc, je souhaiterais que dans la présidentielle, cette question de la démocratie au travail soit portée, et je rêve le soir en m'endormant que le MEDEF, par exemple, propose plus de démocratie au travail, mais ça, c'est juste mes petits rêves à moi.
Alors, je ne suis pas sûr, si on veut le programme de la productivité de Gilles Raveau, et qu'on prenne Elon Musk, je ne suis pas sûr que ça soit exactement un call-cause SpaceX, hein, et que donc les grandes inventions et les grandes avancées, tout ce système, c'est très bien quand on est dans une économie qui n'évolue pas. Quand on est dans un moment de rupture et d'innovation permanente,
Les études montrent exactement l'inverse. C'est lorsque les... Non, mais là, je suis désolé. Non, mais il y a des gens qui travaillent. Les études montrent que, justement, lorsque les gens sont mieux, c'est justement ce qu'on a raté en France. C'est l'exemple type de ce qui a permis. Mais non, la réussite allemande, c'est ça. C'est bien parce que les salariés étaient au conseil d'administration que les entreprises allemandes, c'est plus vrai depuis quelques années, se sont bien mieux adaptées que les entreprises françaises.
Le régime des années 60. C'est-à-dire qu'on est tous... cherche l'âge d'or, je veux dire, pour la voiture, pour ce qui se passe. Ça va voter hein, chez Volkswagen, ça va voter, mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait les Chinois qui arrivent. Donc c'est ça qui est très complexe. Dans des sociétés qui sont, entre guillemets, pas fermées, mais enfin qui sont relativement stables, on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes. Ce qui est très compliqué, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien cette idée-là, je dis simplement par rapport à la rapidité du monde. Regardez les histoires, je change à peine de sujet, sur la souveraineté, les dépenses de défense. En un an, on vient de comprendre avec les Ukrainiens, les Iraniens, que tout ce qu'on nous racontait sur les méga programmes de dépenses, où on allait faire encore plus exploser la dette française ou des pays européens, ce sont des dépenses absolument inutiles par rapport à la nouvelle guerre. Donc, tout ça n'est pas forcément faisable, ni par une planification, ni par un vote consensuel.
Je reviens à ce que vous disiez sur la démocratie en entreprise. Je veux citer ce papier de Yann Algan qui a commis un papier excellent. Exactement. Sur l'isolement. Exactement. Des salariés qui ont plutôt tendance à voter, oui, aux extrêmes quand ils sont isolés au sein de l'entreprise.
On a plein de travaux passionnants.
C'était très intéressant aussi. Vincent Ponce, je voulais venir sur un dernier point sur la démocratie directe, pour voir si pour vous, les conventions citoyennes, les référendums d'initiative populaire peuvent réconcilier. Est-ce que ça manque en France? Certains candidats prônent cette démocratie directe, peuvent réconcilier les Français avec la décision publique.
Oui, les conventions citoyennes, on a plusieurs pays qui les ont utilisées avec un grand succès pour trancher des débats qui étaient des débats épineux. Je pense notamment à l'Irlande qui a utilisé ses conventions citoyennes sur des sujets comme la fin de vie, comme l'avortement. C'était compliqué pour les élus de prendre une décision parce qu'il y avait au départ des tensions très fortes entre différentes parties de la société. Et puis, les conventions citoyennes qui ont ensuite débouché sur un référendum ont permis de trancher ces débats. Et sur la démocratie au travail, je rejoins ce que disait Gilles, on n'a pas pu tout traiter dans la note, mais c'est vrai que le lieu de travail, évidemment, est un lieu essentiel, y compris sur les questions politiques, parce que tout un ensemble de débats sur le partage de la valeur ajoutée, sur la justice intra-intergénérationnelle, ont lieu aussi à l'échelle d'une entreprise. Et dans les tendances inquiétantes que je mentionnais tout à l'heure, vous avez aussi une polarisation affective croissante entre différentes parties de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un électeur de gauche ou un électeur de droite, vous détestez de plus en plus, tout simplement, les électeurs du camp d'en face. Et le problème, c'est que si vous regardez parmi vos amis, vos voisins, les membres de votre famille, vous êtes de plus en plus entouré de gens qui pensent comme vous. Et ça favorise évidemment cette animosité. Il y a un lieu, un endroit où on continue à rencontrer des gens qui ont un, oui, avis différent, mais dont on respecte la vie, c'est nos collègues sur le lieu de travail. Donc, le lieu de travail peut aussi jouer un rôle pour dépolariser la société, avoir un débat plus apaisé, et sur les grands choix qu'on va devoir prendre, trouver un consensus.
Bon, le message est passé en tout cas au MEDEF, qui nous écoute. Bon, un grand débat sur la démocratie au travail,
si
pourquoi
vous,
pas.
Tout ça est un très bienveillant, rapide, très positif. Guillaume. Sur des questions sociétales, on comprend bien, mais s'il s'agit encore de rajouter des règles, Monsieur le professeur Raveau, vous n'aurez pas votre productivité. Arrêtez de rajouter des règles.
Une réponse?
Il y a des
règles. Mais c'est vrai, il y a une contradiction. Il y a raison.
Non, parce que, si vous voulez, alors là, je vais être très méchant, mais tant pis. Ce que vous faites, c'est la facilité française. C'est-à-dire que vous ne lisez pas les travaux dont on parle ici, vous permettez de vous exprimer sans savoir, et après, vous faites des phrases faciles à la téloche. Ça, c'est facile.
Non, mais j'ai le droit d'avoir des opinions.
Tout le monde le sait, je n'ai pas beaucoup d'expertise
sur
aucun sujet.
Je m'exprime pas sur.
Mais basé sur le réel.
Enfin, voilà, il y a un truc qui est marqué les experts. Quand on connaît pas un sujet, on a le droit d'écouter les experts. Moi, je lis des gens comme Vincent Ponce. Moi, je produis assez peu de théories économiques, en tout cas pas du même genre. Et donc, non, quand on ne sait pas, on a le droit de dire qu'on ne sait pas.
Il y a une jolie réponse de Yogi Berra.
Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on fait des mots pour ne rien dire. Et donc, pour vous répondre, il y a des changements institutionnels qui permettent de gagner en flexibilité et donc en productivité.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Lisez les études que vous connaissez pas.
Mon cher Gilles, en théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose. En pratique, pas toujours.
Bon, on va passer au dernier débat. On vous mettra pas d'accord sur ce sujet. On voulait parler acier. C'est vous, Gilles, qui souhaitiez parler acier européen. L'Europe doit-elle fermer ses frontières? L'Europe qui a réduit de près de la moitié ses quotas d'acier importé et qui a doublé ses droits de douane pour protéger effectivement une industrie indispensable. Mais est-ce que c'est pas au risque d'énerver nos voisins chinois qui étaient à Bruxelles il y a quelques jours encore, le ministre du Commerce extérieur qui a vu Maros Sefcovic? On a quelques sujets avec eux. Est-ce que l'Europe a raison d'assumer ce protectionnisme?
Alors d'abord, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que l'acier ? L'acier, c'est un alliage de fer et de carbone, et c'est le carbone qui donne sa souplesse à l'acier. L'acier, c'est un alliage, donc c'est difficile à fabriquer, c'est extrêmement énergivore.
Et il y a différentes qualités, oui.
Partout, puisque dans tous les bâtiments, dans tous les voitures, dans tous les tramways, dans tous les métros, il y a de l'acier absolument partout. Et ce qui est assez étonnant, c'est que d'une part, alors en termes d'histoire des idées, on voit qu'on arrive à la fin du consensus en faveur du libre-échange, y compris dans notre profession. On a quand même une vidéo stupéfiante de Paul Krugman, un des plus grands prix Nobel de notre discipline des dernières décennies, qui a eu le prix Nobel justement pour ce qu'on a appelé les nouvelles théories du commerce international, qui hier s'est prononcé en faveur des droits de douane, et notamment de droits de douane européens, en disant, en fait, il dit, c'est très mignon, il dit, je suis désolé de ce que je vais dire, mais si les Européens ne mettent pas de droits de douane sur les voitures chinoises, leur industrie automobile va disparaître et ils ne peuvent pas se le permettre. Donc là, il y a un changement idéologique. Et après, donc moi, je suis quelqu'un de tout à fait protectionniste aux frontières nationales. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est dans l'histoire de l'acier, c'est que là, pour le coup, on a une étude très solide sur les droits de douane américains sur l'acier, dont on sait que ça a été catastrophique pour l'économie américaine, puisque ça a créé quelques emplois dans le secteur de la sidérurgie, au détriment de l'ensemble de l'économie, puisque les coûts de production, puisque vous augmentez un coût de production qui est au cœur, encore une fois, du système productif, et donc les voitures coûtent plus cher, faire des bâtiments, ça coûte plus cher, et donc ça a détruit des dizaines de milliers d'emplois. Donc je suis assez étonné que l'Europe fasse du protectionnisme sur l'acier. Alors, juste pour finir, il y aurait une logique, mais c'est assez long terme, et c'est très difficile dans une économie de marché, c'est la décarbonation, c'est-à-dire qu'il y avait notamment ArcelorMittal France.
Il y a beaucoup investi.
Voilà, qui s'était beaucoup engagé et qui n'arrive pas à décarboner parce qu'ils ne produisent pas assez en France, parce que, bah justement, comme la construction de voitures s'est cassée la figure, ce qui se passe, c'est que la production d'acier, comme la consommation d'acier baisse en Europe, la production baisse et donc ils n'ont pas les moyens d'investir pour faire et donc ils ont renoncé à l'objectif de décarbonation, en dépit des... Ils avaient reçu quand même plusieurs centaines de millions d'euros d'aide publique pour faire ça. Donc, en fait, ça pose une question qui est au cœur de mes enseignements à la fac. C'est qu'on voit bien, en fait, que, dans une certaine mesure, il y a une contradiction assez fondamentale entre l'écologie et le libre-échange. C'est-à-dire que si vous voulez, en tout cas pour nous, Européens, planifier à long terme, décarboner à long terme, eh bien, vous ne pouvez pas, effectivement, laisser rentrer des produits qui ont été faits de façon plus polluante mais moins chère, puisque vous n'êtes jamais compétitif. La grande difficulté, c'est le problème de Trump aux États-Unis, c'est quand vous mettez des droits de douane, vous avez des pertes immédiates sur le bien-être des consommateurs, c'est comme une taxe effectivement sur l'économie.
C'est le consommateur qui paye à la fin, hein, toujours.
Qui peut amener, l'idée c'est que vous pénalisez le consommateur dans l'espoir de développer la production plus tard. En fait, c'est ça le pari. Mais c'est plus tard. Est-ce qu'il y aura ce regain de production ? Et dans le cas de l'acier européen, je ne vois pas très bien effectivement la logique, encore une fois, de taxer ce truc qui est au cœur des processus productifs.
Vous parliez des États-Unis. Vincent Pons, je rappelle que vous êtes professeur à Harvard. Et Bruxelles veut former avec Washington un front commun contre les surcapacités chinoises. C'est un débat dont on parle, ça, aux États-Unis ?
Oui, évidemment, les États-Unis parlent beaucoup en ce moment du commerce, pour de bonnes raisons. Ils ont complètement renversé la table et puis l'ont remise à l'endroit et puis l'ont remise à l'envers à plusieurs reprises au cours de la dernière année. On a l'impression que 10 ans se sont écoulés, mais non. C'était seulement il y a quelques mois que le Liberation Day a été annoncé.
Absolument, début avril 2025.
Il me semble qu'il y a 3 enjeux sur ces questions commerciales. D'abord, il faut faire en sorte que le libre-échange n'ait pas pour conséquence de réduire les régulations, notamment en matière environnementale, au plus petit dénominateur commun. Et le dispositif qui existe en Europe, qui vient d'être mis en œuvre, donc il est un peu trop tôt pour en effectuer l'évaluation, c'est le dispositif des ajustements carbone aux frontières, donc
le CBAM.
Davantage pour les importations qui viennent de pays étrangers qui sont moins 10 ans sur le prix du carbone. Et ensuite, il y a 2 autres objectifs qui sont en tension. D'un côté, si vous avez des droits de douane trop importants, c'est une taxe directe sur les consommateurs. Donc, vous allez augmenter les prix que les consommateurs, que les entreprises payent sur les...
Est-ce que ça a été vu aux États-Unis, ça ?
Alors, on a noté aux États-Unis qu'en effet, il y avait une transmission des droits de douane, mais la transmission n'est pas un pour un, parce qu'une partie des droits de douane ont été absorbés par les entreprises
par les
qui vont chercher les produits aux frontières, et puis ensuite les amènent jusqu'à l'étalage.
Donc le débat sur l'inflation n'est pas monté, c'était ce qu'on disait ici en France, à un moment le consommateur américain va se réveiller, et Donald Trump risque de le payer politiquement, ça n'est pas le
l'inflation
cas.
A augmenté aux États-Unis, en partie en raison des droits de douane, en partie aussi de façon plus brutale, en raison de la guerre en Iran, qui a augmenté les prix de l'énergie. Très clairement. Certes, pas autant qu'en France, mais quand même. Donc, il y a ce premier objectif, éviter de provoquer une inflation trop importante. Le second objectif, c'est de préserver, de protéger l'industrie nationale si elle fait face à notamment une concurrence déloyale. Là, on parle notamment de la Chine qui subventionne son industrie. Oui. Alors, la question ensuite, c'est quel protectionnisme vous voulez faire si vous faites un protectionnisme? Est-ce que vous allez mettre des droits de douane de 30% comme ça a été proposé en France sur toutes les importations chinoises? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée parce que là, vous perdez sur le tableau de l'inflation. En revanche, il faut, à mon avis, identifier les secteurs qui sont les secteurs les plus stratégiques, les plus essentiels et sur lesquels on est les plus vulnérables parce qu'on dépend seulement un ou deux pays exportateurs. Et sur ces secteurs, renforcer notre compétitivité, diversifier notre offre.
Travailler à nos dépendances.
Si nécessaire, mettre en œuvre les instruments anti-coercition qui existent déjà dans l'Union européenne.
Est-ce qu'il faut choisir le camp américain? Question un peu provoque, hein,
Guillaume Bard, mais
dans la confrontation économique avec Pékin.
On a le sujet de l'enjeu climatique qui est clé. Donc, il faut trouver une sorte de taxe carbone à un moment donné. Elle est difficile à mettre en place. Il y a un deuxième élément, en théorie des jeux, ce qui est très ennuyeux, c'est quand vous jouez avec un gars qui est 10 fois plus puissant que vous, donc on peut accuser les Chinois de tous les maux, pas beaucoup de démocratie effectivement, donc ils décident un peu plus vite, c'est pas bien, mais du coup ça leur permet d'avancer. Ils subventionnent probablement, mais c'est très dur à lire, et surtout, ils sont maintenant capables de produire absolument tout.
Eh oui.
On parle des climatiseurs en ce moment. La capacité de production de climatiseurs chinoises correspond à 120% de la demande. Alors, je ne dis pas que c'est eux qui font monter la
canicule. Ils accélèrent.
120% de la demande mondiale. Sur l'automobile, ça va être 150%. Donc, on joue avec quelqu'un qui est trop puissant. Et donc, on ne sait pas très bien comment faire. Donc, on peut... Et troisième enjeu, c'est celui de la souveraineté sur des points clés. Celui qui est le plus marquant, c'est celui des médicaments. C'est-à-dire que l'idée qu'on répète depuis le Covid, on n'est pas capable de produire, on n'a pas la substance, l'ingrédient initial qui permet de faire des antibiotiques. Et donc là, il faut se défendre sur la souveraineté. Donc je suis assez d'accord avec Vincent. Faut trouver les quelques domaines stratégiques, sauf qu'ils sont incroyablement rares parce que la Chine est sur tout le spectre de la production. Absolument. Et demain, c'est l'aéronautique. Vous avez évoqué dans votre débat hier le débat sur le COMAC et les chaînes d'Airbus. Donc, on a un acteur qui est trop puissant. Alors, il y a un deuxième acteur puissant qui est les États-Unis qui peut, lui, jouer au bras de fer. Et nous, bon, on a notre marché de consommation, mais comme le sujet numéro un, c'est le pouvoir d'achat, si...
C'est un peu la question que j'allais vous poser, effectivement. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher aussi?
Personne n'est payé à payer plus cher. Et les élus, ils doivent répondre en permanence dans des pays démocratiques à la demande des gens, c'est-à-dire avoir du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est fourni, on le sait très bien. Le textile, qui était très cher il y a 50 ans en France, on l'a déjà dit 10 fois, acheter un manteau, c'était un enjeu il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus, même pour 90% des Français.
On dit souvent que c'est 1 500 € de pouvoir d'achat en plus pour les ménages français, les produits chinois. Vincent Ponce.
Gilles disait tout à l'heure, l'acier, on en a partout, on en produit partout, on en utilise partout. C'est en fait, par définition, c'est l'idéal type d'un produit qui n'est pas un produit stratégique, sur lequel on n'a pas une forte dépendance. Parce que si un pays décide d'augmenter son prix de production, on peut se tourner vers un autre pays. Donc, il n'y a aucun risque d'être... forcé à adopter des...
Sauf s'il y a une guerre mondiale.
Ouais, mais là, on peut aller chercher chez un autre producteur. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment un blocus qui se fasse sur l'ensemble de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, on pourra diversifier. Donc, c'est en effet plutôt vers les produits d'hôpitaux, les produits pharmaceutiques, les terres rares. C'est plutôt sur ces produits-là qu'il faudrait mettre en œuvre des...
On a une vision claire. Moi, je trouve qu'il y a toujours manqué une taxonomie, c'est-à-dire la liste des produits.
Elle existe,
comme
donc
ça,
il y a une note du Conseil d'analyse économique de Xavier Jaravel, Isabelle Méjean, qui dresse la liste de ces produits qui sont à la fois essentiels et sur lesquels on a un risque de dépendance.
Non, mais pour reboucler ce avec quoi on a commencé, dans le cas des médicaments, c'est très simple. Il y a un marché mondial du médicament et la Sécu n'achète pas assez cher les médicaments. Et c'est pour ça que la production française est partie. Donc, la solution, c'est de payer
plus
cher et donc...
d'en plus reparler. Merci à tous les trois, Guillaume Dard, Vincent Ponce.
On comprend qu'il faut se réveiller en France. Hein.
Pour cette émission passionnante et vivante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. On se retrouve demain, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.